RCF.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus, que vous soyez sportifs ou éclopés, en pleine forme, montés sur des ressorts ou tout simplement épuisés, cette émission Effervescence est faite pour vous. Ok, on va parler sport, mais tout en douceur, donc chacun devrait y trouver son compte. Et comme chaque semaine, le magazine de l'étonnement culturel partage avec vous ses enthousiasmes qui devraient faire briller vos yeux et battre votre cœur. On a une pensée pour Ingrid, la plus sportive d'entre nous, qui manque toujours à l'appel, et pour Stéphane, parti en vadrouille faire le plein d'expositions au moment où nous enregistrons cette émission. Heureusement, Laetitia Forgeaud-Arc et Victoria Jacob sont avec nous, prêtes à relever le défi de parler sport dans l'effervescence, mais aussi heureux, enfin je l'espère, de nous présenter leur pépite culturelle du moment. Laetitia Forgeaud-Arc, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Strasbourg, alors il y a toujours une bonne raison d'aller à Strasbourg, mais en ce moment elle est énorme puisque depuis quelques semaines, la capitale alsacienne est devenue la capitale mondiale du livre, et puis de livres. Vous nous en conseillez un qu'on avait un peu laissé passer de côté, c'est « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour. Victoria Jacob, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Merci d'être à mes côtés à Paris. Le magazine des années lycées, c'est vous. De ces années lycéennes, il en sera question, mais pas seulement. Dans ce livre, « Ce qu'on devient » d'Anne-Sophie Braham. Et puis, vous avez vu la série qui cartonne actuellement sur Disney+, c'est « Shogun », une plongée dans le Japon médiéval. Voilà deux chroniqueuses dans les starting blocks. Effervescence peut commencer, et ce n'est pas une épreuve.
Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
Moi, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui, on sort les flashs pour n'importe quel. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste.
Il va y avoir du sport, impossible d'y échapper. Les JO approchent, la flamme a commencé son périple à travers l'Hexagone. Paris et la Seine-Saint-Denis sont en chantier, mais pas d'inquiétude, tout sera prêt pour le jour J et l'eau de la Seine sera tellement claire qu'on verra les belugas dedans. Les athlètes s'entraînent, les politiques rodent leurs discours, les médias leurs dispositifs d'antenne et les franciliens anticipent le monde à venir car le monde a rendez-vous chez eux, enfin chez nous, pour l'un des plus grands événements sportifs du monde. La France est une grande nation sportive, entend-on un peu partout, et un peu partout, le sport est à l'honneur. Pas une seule manifestation culturelle qui n'ait son label JO, qui ne mette en avant les valeurs du sport, le dépassement de soi, l'émulation, l'esprit d'équipe. Oui, il va y avoir du sport, alors pourquoi pas dans l'effervescence aussi. Oui, mais nous, enfin moi surtout, comme le disait Silmarins, il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Mais pour ne pas mourir idiot, et en attendant d'allumer notre télé pour vibrer à l'unisson avec les athlètes, dans l'effervescence, nous vous proposons une expérience sportive des plus singulières, des livres autour du sport. Oui, le sport, dans toutes ses dimensions, le sport comme expérience humaine extrême, comme concentré de notre civilisation, le sport a toujours fasciné les écrivains. Et nous vous avons sélectionné trois ouvrages fort bien écrits pour vous permettre de briller en compagnie, d'étaler votre science sur le sport sans dépenser un gramme de sueur. Pour lire, vous avez le choix entre indoor et outdoor, canapé ou transat. Pour la boisson, vous pourrez ajuster la température du thé vert au gingembre. En revanche, pour la tenue, le survêtement et les tongs aux couleurs de la France s'imposent évidemment. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais aide beaucoup à la lecture.
Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport.
Mais revenons sur ce slogan, la France nation sportive. Je suis incapable de dire en quoi il est juste ou pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a quelques années, j'ai cédé, je le confesse, à la mode du running. Je me suis acheté une paire de baskets et le samedi matin, j'allais courir dans les bois à côté de chez moi avec des copines. Ce qui est chouette dans le running, c'est qu'on progresse très vite. Et quand je racontais ça, eh bien vous savez quoi ? Autour de moi, je sentais que j'en imposais. Vous pouvez interviewer les gens les plus célèbres ou les plus passionnants, vous lever à 3h30 du matin pour présenter une matinale, bosser sur les sujets les plus complexes, les plus glauques. Si vous voulez impressionner la galerie, mettez des baskets et étalez vos performances du week-end. Et je vous garantis, vous sentirez le respect autour de vous. Alors c'est peut-être ça, une nation de sportifs. Bon, je vous rassure, depuis, j'ai raccroché les baskets, trop fatigant.
Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.
Alors Victoria, Laetitia, est-ce que vous avez des baskets ? Est-ce que vous êtes des femmes sportives ? Allez, je commence par vous, Victoria.
Alors moi, je fais du yoga.
C'est du sport,
de la Zumba, et je viens tous les jours en vélo. En gros, j'ai la Sainte Trinité de la Parisienne, bobo, yoga, Zumba, vélo. Mais bon, je me remue, quoi.
Laetitia ?
Moi, j'aime beaucoup la Sainte Trinité parisienne, mais étant strasbourgeoise, en fait, le vélo s'impose. Mais ici, il n'est absolument pas considéré comme un sport, c'est juste un moyen de locomotion. En revanche, moi, j'aime le sport pas du tout en mode compète, mais plutôt pour me faire plaisir, pour me défouler. Donc, j'ai touché un peu à tout, notamment aux arts martiaux, qui, pour briller en dîner, est juste le step au-dessus du running, c'est-à-dire running, très clairement. Voilà, que je pratique de façon pas très académique, mais vraiment histoire de me défouler, parce que je pense que c'est assez vital pour moi. Voilà. Et sinon, le sport, c'est aussi le suivre. Hein. Je ne sais pas si on va en parler, mais moi, je très clairement suivre le rugby. Ça ne veut pas dire en pratiquer, mais c'est comment ah, c'est tout comme en fait. Suivre le rugby à la télé, la finale européenne le week-end dernier. Voilà, il y a une façon aussi de communier au sport quand on est devant sa télé, non ?
Peut-être. Victoria,
moi j'ai mes places pour les JO. Hein.
Vous avez vos places pour
ouais.
Ah, une vraie, on en a trouvé une.
Ouais,
super.
Ouais, je vais voir de l'athlée, du handball et alors du foot. Je laisserai peut-être mon mari, mais j'ai les places.
Bon. Laetitia Forgeau-Darc, on commence avec vous, car non seulement votre livre parle de sport, mais aussi d'olympisme. Il s'agit de 2m10 de Jean Asfeld, et c'est sorti en 2018 chez Gallimard. Vous nous rappelez qui est Jean Asfeld ?
Alors Jean Asfeld, on le connaît surtout aujourd'hui pour ses reportages de guerre, mais c'est avant tout un grand journaliste sportif, et c'est ce qui va donner à son ouvrage, fort bien écrit, beaucoup de réalisme en fait. Voilà, moi le sport, on l'a dit, c'est pas vraiment... mon sujet de prédilection, mais là on s'intéresse à ce que c'est qu'un mouvement bien posé, à ce que sont les rouages des préparations pour les sportifs de très haut niveau, les sportifs qui vont concourir aux Jeux Olympiques, et c'est assez passionnant, notamment sur l'approche de la technicité des mouvements, pourquoi est-ce qu'un mouvement est beau, pourquoi est-ce qu'il est bon. Voilà, Jean Asfeld est vraiment assez fort pour nous emmener là-dedans et pour nous passionner pour le détail.
Alors dans ce livre, on suit 4 athlètes, c'est ça ?
Oui, alors on suit 4 athlètes, 2 haltérophiles, 2 hommes haltérophiles, pardon, et puis 2 femmes qui font du saut en hauteur. Hein, les 2m10, c'est bien sûr la hauteur maximale qu'elles ont franchie toutes les deux. Je vais vous parler plus de ces deux femmes parce que je trouve que le livre les suit vraiment du début à la fin, avec des allers-retours dans le temps, c'est-à-dire qui étaient ces femmes lorsqu'elles étaient enfants, comment elles ont accédé, comment elles ont été repérées aussi, parce que c'est ça le sport, c'est être repéré, et on l'est très différemment dans les deux pays de ces femmes, puisque Sue, c'est une Américaine, l'autre sportive en fait est une femme du RSS, puisqu'on est dans les années, dans la décennie 75-85, donc on est encore sous à l'époque du RSS. Elle est kirghize, donc depuis le Kirghizistan est indépendant, mais à l'époque c'est une terre qui a été ravagée notamment par les déportations de Staline. Donc il y a tout ce poids de l'histoire aussi chez cette athlète. Quand elle se présente au jeu, elle est à la fois très attendue, parce qu'elle porte les couleurs de l'URSS, et à la fois, il y a cette suspicion pour ces minorités qui sont dangereuses, en fait, pour l'Empire. Et de ce point de vue, l'autre couple d'athlètes les haltérophiles sont encore plus représentatifs, puisque un autre athlète vient aussi du Kirghizistan. Et lui, il va, au moment de sa victoire, brandir un petit drapeau du Kirghizistan. Et dans la soirée, malgré sa victoire, malgré sa médaille d'or, il va être embarqué par le KGB et déporté. Voilà, ça c'est la toile historique. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'on suit vraiment, en particulier chez ces deux femmes, en fait, Tatiana et Sou, c'est un parcours de joie avant d'être un parcours de souffrance. C'est des femmes qui vont aimer ce qu'elles font et qui ont une approche sportive qui est quasi esthétique. Comment est-ce qu'on apprend à s'enrouler autour de cette barre? Comment est-ce qu'on en fait une alliée plutôt qu'une adversaire, cette barre de fer qui va monter de quelques centimètres à chaque épreuve jusqu'à arriver donc au fameux 2m10. Donc toute cette technique, là encore il y a un enjeu politique et j'en finirai par là. Le fameux saut de Fosbury, qui est un Américain qui a remporté Mexico en 68, ce saut de Fosbury, il est évidemment interdit en URSS, parce qu'il vient du grand méchant, du grand capital, donc on ne l'approche pas. Sauf que notre Tatiana, elle va être entraînée en secret dans les montagnes du Kirghizistan, pas évident à dire, pour parvenir à l'acquérir comme ça. Et c'est comme ça qu'elle va remporter passer la barre des fameux 2m10.
Voilà. 2m10 de Jean Asfeld. Alors, votre livre, Victoria Jacob, c'est Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. C'est sorti en 2021 chez l'Iconoclaste. C'est le portrait d'un coureur qui est aussi un voyou. Et c'est aussi, Laetitia nous disait que c'était un livre de rencontre. Vous aussi, c'est une rencontre entre l'écrivain, l'auteur et ce sportif.
Ouais. Alors, donc, c'est une histoire vraie. C'est vraiment un livre de journaliste. C'est une histoire originale. Celle d'une enquête journalistique, celle d'une relation étonnante, vous l'avez dit, qui se noue entre ce journaliste et son sujet, entre un footeux et un sprinter, entre Mathieu Palin et Toumani Koulibaly. Cette histoire captivante, elle démarre par la lecture en fait d'un article de presse, un article du Parisien plus précisément, journal dans lequel Mathieu Palin, donc lui-même journaliste, découvre l'histoire de Toumani Koulibaly, un jeune qui a le même âge que lui, une trentaine d'années, qui vient du même coin, l'Essonne. Ce garçon, Toumani Koulibaly, se retrouve pris dans un engrenage de condamnation judiciaire. Il doit en être à l'époque à sa 13e ou 14e condamnation pour des vols et cambriolages. Mais la particularité de ce jeune braqueur, c'est qu'il est aussi membre de l'équipe de France d'athlétisme et champion de France du 400 mètres. Mathieu Palin, il est tout de suite intrigué et touché par cet homme et son parcours et décide de lui écrire à la prison de Fresnes où il est incarcéré. En substance, il lui dit... On se connaît pas, mais on vient du même coin. Je suis pas un athlète, mais je me suis rêvé joueur de foot. Je suis journaliste et j'ai l'impression que je suis capable de vous comprendre. Cette idée d'être sans arrêt rattrapé par le quartier, d'avoir envie de s'en arracher, mais d'être tiré par des espèces de fils invisibles vers des tas de conneries, je le comprends. Ce qui l'intéresse, Mathieu Palin, c'est la symétrie entre deux. Pourquoi lui, il est tombé du bon côté et pas l'autre? La lettre part, et pendant un an, il se passe rien. Au bout d'un an, il reçoit un texto de Toumani Koulibaly et ils se mettent à échanger. Donc, il lui raconte qu'il s'entraîne très dur tous les jours, qu'il s'accroche au sport en prison pour continuer à vivre, qu'à part sa femme, personne ne vient le voir. Il a pourtant 18 frères et sœurs. Alors Mathieu décide de lui rendre visite dans le 77, une prison pour les longues peines où il a été déplacé entre-temps. À partir de là, les deux hommes vont échanger au parloir et Mathieu Palin, il va tenter d'éclaircir l'énigme Koulibaly, l'énigme de cet homme athlète le jour, voyou la nuit. Durant près de 2 ans, ils se voient chaque semaine, ils vont même devenir amis. Et Mathieu essaye vraiment de comprendre comment cet homme, quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France de 400 mètres, enfilait une cagoule pour braquer une boutique de téléphonie. C'est vraiment quelques heures. On découvre au début du livre quand même la vie de cet athlète surdoué qui découvre ses capacités sur le tard. Une fois adulte, jeune, il n'était pas du tout... Enfin, il était sportif, mais en tout cas, il n'était pas spécialement doué ou en tout cas pas détecté. On découvre sa jeunesse en France, puis au Mali, une jeunesse plutôt sage jusqu'à ce qu'il commence à voler et ne sache plus s'arrêter. Car c'est un homme à deux faces, ce Koulibaly. Côté pile, il y a la vie sportive, il enchaîne les performances, il est incroyable, il a un physique incroyable. Il est entraîné notamment par l'ancienne championne Patricia Girard, c'est un diamant brut, un peu foufou, mais qu'on a très envie de polir. Il rêve un peu aux Jeux Olympiques, lui aussi. Mais côté face, il a des dettes à payer, il ne sait pas résister à la tentation d'un bon coup, d'un bon cambriolage dans les règles, parce que Toulibaly, il court vite, il ne se fait jamais attraper. Jusqu'au jour du coup de trop de celui réalisé avec des points de suture au genou, ce coup qui va voir ses deux carrières s'arrêter net. Donc la question posée en creux par l'auteur, c'est vraiment pourquoi certains s'en sortent et pourquoi certains ne s'en sortent pas. Une vraie enquête sociologique qui est vraiment passionnante à lire et que je vous conseille vivement.
Ne t'arrête pas de courir, de Mathieu Palin, c'est chez l'Iconoclaste. Et à mon tour de vous proposer une lecture sportive. C'est une lecture historique et comme on ne se refait pas, c'est un roman graphique. La patrie des frères Werner est sortie en 2020. Le 22 juin 1974, la Coupe du Monde de football se tient en Allemagne de l'Ouest et l'équipe de RDA doit affronter la RFA. On est dans le même contexte dont parlait Laetitia tout à l'heure. C'est le match de la guerre froide pour les dirigeants communistes. Il faut faire gagner l'équipe est-allemande pour prouver aux yeux du monde la supériorité du régime communiste sur les pays capitalistes. Alors au cœur de cette histoire, il y a les frères Werner, deux orphelins de guerre qui, pour s'en sortir, au lendemain de la défaite de l'Allemagne, alors qu'ils sont à peine sortis de l'enfance, vont accepter de rentrer dans la Stasi, la police politique de RDA. Je vous rappelle, la Stasi, c'était le service chargé d'espionner les citoyens allemands pour s'assurer de la loyauté de tous au parti communiste. Ils vont donc devenir des serviteurs zélés du régime est-allemand. Mais on sent bien que leur engagement n'est pas tout à fait le même. Andrea, le plus jeune, a des doutes. Il a du mal avec l'obéissance. Contrairement à son frère aîné, soldat modèle de la propagande est-allemande. Et le lien très fort entre les deux frères va se distendre au fur et à mesure des années. D'autant plus que Konrad est envoyé comme espion à l'ouest, quand Andreas reste à l'est à surveiller ses concitoyens. Et donc on les retrouve en ce mois de juin 1974, à quelques jours de ce match décisif. Voilà, c'est l'histoire de deux frères, c'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire de l'Allemagne, de ses blessures qui laissent des plaies profondes et pour lesquelles la cicatrisation prendra de longues années. C'est un très beau livre au service de la mémoire européenne. Ça s'appelle « La patrie des frères Werner ». C'est signé du duo Philippe Collin et Sébastien Goethals et c'est publié chez Futuropolis. Et puisque je vous parlais de foot, je me souviens de ce 9 juillet 2006. La France affronte l'Italie en finale de la Coupe du Monde de football. Zidane, qui vise un second sacre, ouvre le score sur pénalty avant de commettre l'irréparable en donnant un terrible coup de tête à Marco Materazzi à la 107e minute de match. Carton rouge pour notre idole. Je me souviens du papier de Jean-Claude Raspinjas dans La Croix depuis Avignon, évoquant la tragédie antique pour raconter les insultes de joueurs italiens et la réaction de notre Zizou national. Le soir, les Italiens fêteront leur victoire en écoutant Seven Nation Army, le tube mémorable des White Stripes. Comme quoi, on peut être très mal élevé, pour ne pas dire pire, et avoir de très bons goûts musicaux.
Time right behind my back.
Voilà, le tube de cette Coupe du Monde 2006, côté italien seulement, nous on ne dansait pas trop. Seven Nation Army par The White Stripes. Et pour illustrer cette émission, bah, j'hésite encore, hein, entre un tableau de Jean-Michel Basquiat ou un combat de boxe de Norman Rockwell. Et bien, pour tout savoir, vous irez sur le site de rcf.fr ou sur notre appli et vous découvrez l'image de cette émission.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Bon, c'est bon la littérature, mais il y a aussi les séries dans la vie. Parfois, on n'a même pas la force de lire et on s'allonge sur un canapé avec sa zapette. Et vous avez été sur Disney+, Victoria, pour découvrir Shogun, la série dont tout le monde parle. Ça se passe dans un Japon médiéval et ça fonctionne plutôt bien.
Oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, je préfère prévenir, on est sur de la série gros budget, de la série grandiose, de la série parfois un peu lente, mais de la série waouh. En revanche, on est aussi sur un pitch un peu compliqué, vous allez voir. Alors, l'action donc se passe en 1600 au Japon. On voit s'échouer sur les côtes un bateau d'origine néerlandaise, piloté par un Anglais protestant nommé Jack Blackthorne. La majorité de son équipage est décimée et il met les pieds dans un pays qui s'écharpe, un pays miné par les luttes de clans et malmené par les influences étrangères en présence, notamment catholiques et protestantes. Il est fait prisonnier par le seigneur Toranaga, membre du Conseil des Régents, ce conseil qui règne sur le Japon en attendant que l'héritier du précédent régent, tout juste décédé, soit en âge de régner. Mais le seigneur Toranaga est en scission avec le reste du conseil. Blackthorne va d'abord devoir donc lutter pour survivre, puis se découvrir une vie possible, une destinée différente un peu, aux côtés de ce grand seigneur de guerre japonais. Alors ce que je viens de faire, on est d'accord, est un résumé très très rapide et très très succinct de cette histoire de lutte de pouvoir assez complexe entre les membres de ce conseil des régents.
Victoria, on écoute un extrait de la bande-annonce.
Ouais.
Quel genre d'homme exerce le pouvoir dans un pays comme celui-ci?
La mort est l'unique châtiment ici.
Je me suis battu trop longtemps et trop dur pour arriver ici.
La vie et la mort sont la même chose. Les deux peuvent avoir de la valeur et un but.
Une seule des deux est définitive.
Shogun donc. Victoria, vous me rassurez, on peut comprendre sans être une spécialiste du Japon, c'est grand public?
Oui, tout à fait, ce que je ne suis pas du tout. C'est grand public. Alors encore une fois,
il y a moult combats, non?
Alors, il y a des combats, c'est quand même une série qui est assez lente. Notamment, alors c'est 10 épisodes, notamment, mais c'est intéressant quand même, parce que c'est une plongée vraiment dans la culture japonaise de l'époque, avec ses rituels, ses coutumes, ses cérémoniales, ses conventions, et donc ça ajoute à la lenteur, parce que eux sont très lents aussi dans tout leur décorum en fait. Parce que dans ce pays, on a beau se faire la guerre et s'opposer, on respecte avec rigueur les règles de la guerre et des combats. On se fait seppuku, donc harakiri, en cas de déshonneur sans jamais broncher. Bref, on suit les règles. En fait, il y a plein de petits fils rouges à suivre dans cette série qui sont intéressants. Il y a les échanges entre ce Blackthorne, donc anglais, et Toranaga. Le capitaine du bateau et le seigneur de guerre japonais ont vraiment pas les mêmes façons ni de mener les hommes, ni d'organiser leur stratégie de combat, ou bien juste même d'échanger. Hein. On suit aussi une très jolie relation entre Blackthorne et son interprète, qui s'appelle Dame Mariko, puisque à son arrivée, il comprend évidemment aucun mot de japonais, donc il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et elle est missionnée par son chef, Toranaga, pour accompagner le navigateur anglais. Elle va le guider dans l'étiquette japonaise, et un peu plus. On suit aussi les luttes de pouvoir, qui sont donc un peu complexes au sein de ce conseil des régents, mais passionnantes. C'est vraiment pas quand même une série bourrée d'action. Il y a quelques combats, mais c'est quand même pas le centre.
Donc la bande-annonce est un peu mensongère.
Est un tout petit peu mensongère, je trouve. Il y a quelques scènes vraiment puissantes, hein, mais je trouve qu'elles restent quand même assez rares. Tout se joue en fait sur les regards, les silences, les non-dits. Et le casting est vraiment très fort à ce jeu-là. En revanche, c'est une série très belle. Les décors sont fantastiques, les costumes sont incroyables. Il y a une grosse puissance en fait qui se dégage de ces 10 épisodes. C'est vraiment une série à voir en prenant son temps. Et en plus, on vient d'apprendre qu'il y a une saison 2 qui est en commande.
Voilà, ça s'appelle Shogun, c'est à voir sur la plateforme Disney+. Allez, retour en France, on va à Strasbourg. Et Strasbourg, on a appris il y a quelques semaines, Strasbourg était la capitale du livre, capitale du monde. Qu'est-ce que c'est que ce label, Laetitia ?
Alors c'est intéressant, c'est un peu le grand écart après le Japon médiéval, mais vous allez voir, on parlait d'histoire aussi. Histoire brève d'abord, en fait, ce label capitale mondiale du livre, il est décerné par l'UNESCO, mine de rien, depuis 2001, donc c'est pas la première fois. En revanche, c'est la première fois qu'une ville française accède à ce titre, en fait, et c'est tout un réseau. Il y a aujourd'hui tout un réseau des capitales mondiales du livre. J'ai envie de vous lire juste le petit mot, une fois n'est pas coutume, de Audrey Azoulay, qui est la directrice de l'UNESCO, et qui explique comment dire, un peu la visée de ce réseau, de cette proposition. Je la cite. En des temps incertains, beaucoup se tournent vers les livres pour y trouver un refuge et une source de rêve. En effet, les livres ont cette double capacité unique de nous divertir et de nous instruire. C'est pourquoi nous devons assurer l'accès à tous, à la connaissance et à la réflexion par le livre et à la lecture. Je m'arrête là, ce serait trop long. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'impulsion, en fait. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas si on peut parler de militance, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment non seulement de promouvoir la lecture, mais d'en faire un outil, en fait, un levier de compréhension du monde. Et de fait, la thématique qu'a choisie la ville de Strasbourg, c'est lire notre monde. Alors, comment ça se passe, en fait, durant un an? Ça a été ouvert le 23 avril, donc vraiment tout récemment. Le 23 avril, on a déclaré que la ville de Strasbourg serait pour un an la capitale mondiale du livre, en sachant qu'on sait déjà que l'année prochaine, ce sera Rio de Janeiro. Et donc, pendant un an, va se déployer dans toute la ville toutes sortes d'événements. Je vais vous en citer quelques-uns. Ce serait assez fastidieux parce qu'il y en a des centaines. Et ça va être des événements qui sont à la fois des ateliers, à la fois des rencontres à l'université, évidemment des expos, évidemment des performances, des expériences de rue, des grandes lectures. J'avais juste envie, vous savez, mon goût pour l'histoire, j'avais juste envie de dire un petit mot quand même sur le pourquoi est-ce que c'est Strasbourg.
Bah oui, en tout cas, pourquoi Strasbourg ?
C'est comme ça que, voilà, pourquoi Strasbourg ? J'entendais votre question, Stéphanie. C'est un peu comme ça que l'a présenté la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian. Évidemment, si je vous demande qui a inventé l'imprimerie, vous allez me dire...
Gutenberg.
Voilà. Malheureusement, vous risquez de me dire qu'il l'a inventé à Mayence, mais ce n'est pas tout à fait vrai, je vous assure. Je vous fournis un scoop, en fait. Ici, on est persuadé que l'imprimerie a été inventée à Strasbourg, puisque Gutenberg y a passé à peu près 10 ans de sa vie.
Oh bah oui, c'est pile ces années-là. Où les...
Voilà, exactement. Et à ce moment-là, on suppose qu'il était dans son petit atelier secret en train de préparer son imprimerie, qu'il n'a dévoilé qu'à Mayence. Voilà, bon, c'est un petit détour, mais pour nous dire quand même qu'on est très attaché à Gutenberg et à l'invention du livre, il faut aussi dire que c'est une ville qui est particulièrement fournie en bibliothèques, il y en a 59, et Strasbourg détient la deuxième plus grande librairie de France, avec la bibliothèque universitaire de Strasbourg, qui a été construite par les Allemands. C'est la deuxième après François Mitterrand à Paris, bien sûr. Donc, capitale ou pas, c'est vrai que c'est une ville pour qui le livre, l'illustration, la lecture a une importance. Il y a au musée Tommy Ungerer, je vous ai souvent parlé des expositions qui s'y trouvent, le Centre national de l'illustration. Et puis la Haute École des Arts du Rhin, où sont passés, que ce soit Marjane Sastrapi ou Serge Bloch, beaucoup sont passés par cette école, qui du coup a un rayonnement largement national. Voilà. Donc pour les raisons, les lieux que je viens de citer sont aussi des lieux qui vont bien sûr être des lieux d'expo. En l'occurrence, au musée Tommy Ungerer s'ouvre jusqu'au 3 novembre, je crois, une expo des œuvres de Julie Doucet, vous savez, qui fait de la BD alternative et qui a été primée à Angoulême en 2022.
Alors, très alternative.
Très, très alternative. Je ne savais pas si je pouvais la citer, mais bon, quand même.
On peut la citer.
Voilà. Donc, c'est en ce moment au musée. Alors, du beaucoup moins alternatif, mais tout aussi intéressant.
On peut dire même trash, hein, pour Julie Doucet. Ouais.
Oui, on peut dire trash et avec tout ce qui a été écrit à l'époque. Mais ça vaut justement, je pense, la peine quand même d'aller. En tout cas, moi, j'irai. Je ne peux pas en parler plus. Je ne l'ai pas encore vu. D'aller voir cette expo au musée Tommy Ungerer qui propose en général des choses vraiment intéressantes et d'aller vraiment à la rencontre d'artistes, en fait. Mais si, pour le moins trash, on peut aussi aller au Palais Rouen, où il y a en ce moment une expo Gustave Doré, une traversée dans l'édition illustrée. Parce que Gustave Doré est aussi un Alsacien. On est dans le plus classique, on est dans le minutieux, on est dans l'illustration, le conte. C'est une expo qui vaut vraiment, vraiment le tour. Et puis, j'ai envie de vous dire, une fois n'est pas coutume, je vous invite à aller voir sur le site de Strasbourg, capitale mondiale du livre, parce que c'est là qu'on découvre qu'effectivement, il y a des expos. Il y aura une immense lecture en continu au mois d'avril prochain. L'événement a aussi été ouvert par une lecture en continu. Et puis, il va y avoir beaucoup de choses proposées dans des établissements, ce qu'on appelle avec des publics empêchés. C'est un joli euphémisme pour parler des lieux carcéraux, des hôpitaux, etc., où beaucoup d'ateliers de lecture, d'écriture, de partage vont être proposés. Voilà, une façon de vous dire que ce n'est pas seulement du clinquant et de l'exposition qui va se
dérouler
toute cette année. Il y a vraiment du profond. Et ça finira par un colloque sur l'écologie du livre. C'est quand même pas banal comme sujet. Je trouve que ça mérite d'être remarqué, l'écologie du livre en avril.
Où sont imprimés nos livres ? Voilà, c'est à regarder voilà, également. Exactement. Merci beaucoup Laetitia. Strasbourg, capitale du livre. Ressusciter le duo Lennon-McCartney, on en rêvait, eh bien leurs rejetons l'ont fait. James McCartney, fils de Paul, et Sean Ono Lennon, fils de John, viennent de signer un premier titre ensemble. Et c'est pas mal, ça ressemble quand même sacrément à leurs illustres paternels.
Primrose Hill, didn't know it still. You meant what you said. An overcast sultry day, I didn't know what to do. I didn't know what to say. We lay there forever, forgot it. Kiss beneath the stars, shooting to the hills, the stars exploded into a flame. Always remember Primrose Hill. Disappear forever. Forever's a long word, but never's not long enough to be loving you. Forever and a day, I looked into your eyes, such a great surprise. You take my breath away. Always remember Primrose Hill. Primrose Hill. We'll always remember Primrose Hill.
C'est sympa, hein, Primrose Hill avec James McCartney et Sean Lennon.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Si je vous dis qu'il y a des tournures linguistiques qui sont à la mode, des façons de parler, d'écrire, des constructions grammaticales, si je vous dis ce que, si j'ai cherché dans le dictionnaire, hein, c'est la chose que, pronom relatif de l'objet direct, inanimé, utilisé sans antécédent. Ce que est à la mode dans les titres, puisque nous vous proposons là deux livres dont les titres sont singulièrement très proches. Ce qu'on devient, d'Anne-Sophie Bram chez Flammarion et Ce que je sais de toi d'Éric Chacour chez Philippe Rey. Allez, on va commencer par Ce qu'on devient d'Anne-Sophie Bram. C'est vous, Victoria Jacob, qui l'avez lu. C'est un livre qui revient sur les années lycée, sur la fin du lycée, sur la terminale, sur même la soirée après le bac.
Ouais.
C'est un moment terrible quand on est une jeune fille moyenne au fond de la classe, ni jolie, ni moche, au milieu, transparente.
Oui, c'est un joli livre sur l'adolescence que vous m'avez conseillé, Stéphanie, parce que ça m'intéressait pour Phosphore. Alors, ça raconte l'histoire de Sophie. Et Sophie, quand elle était ado, à 16 ans, elle s'est écrit une lettre à son moi de dans 20 ans, à celle qu'elle allait être une fois adulte. À cette époque, en 2000, elle s'apprête à rencontrer un éditeur qui, elle l'espère, publiera son premier roman, celui qu'elle vient d'achever dans sa petite chambre d'adolescente. Dans cette lettre, elle s'imagine écrivaine célèbre, femme épanouie, parisienne survoltée. 20 ans plus tard, Sophie vide la cave de la maison familiale et retombe sur cette lettre. Elle la relit et découvre le fossé entre ce qu'elle espérait et ce qu'elle est devenue. Ce roman, c'est la grande Sophie qui raconte à la petite Sophie ce qui s'est passé pendant 20 ans. Ce sont des allers-retours entre passé et présent pour expliquer une vie, pour comprendre des blessures, pour pardonner des erreurs, mais aussi pour se construire en tant qu'adulte. Alors au fil des pages, la grande Sophie, elle explique sa vie à la petite. Elle raconte le harcèlement qu'elle a subi au collège, celui-là même qui a donné une base à son premier roman. Elle explique comment elle a tout fait pour se faire oublier, pour ne donner aucune prise aux moqueries, comment tout doucement elle s'est elle-même un peu gommée. Elle raconte aussi ses amitiés, celles compliquées avec la parfaite Léa, beaucoup trop belle, beaucoup trop lumineuse, à côté de laquelle Sophie fait toujours pâle figure. Et puis celle fusionnelle et incroyable avec Anouk, une Anouk un peu fofolle, qui a une culture si décalée et enviable à base de grands auteurs et de rockers vintage, et qui surtout a l'assurance dont manque cruellement Sophie. Anouk, elle se fiche du regard des autres. Anouk est une artiste, une poétesse. Mais Anouk a une vie familiale compliquée. Toutes les deux, elles ont en commun l'écriture, une passion qui devrait les rapprocher, mais qui va pourtant tout doucement les éloigner. Elle raconte aussi Tom Gavanel. Tom Gavanel, le beau gosse fantasmé qui ne la calcule pas, elle qui porte les joues pleines d'acné et promène un physique ingrat. À la sortie de son premier roman, parce qu'il va être publié, Sophie est propulsée dans le Paris littéraire, celui des interviews dans les cafés chics et des soirées dans des appartements feutrés. Mais à 17 ans, elle n'a pas les codes pour cette vie et elle va rapidement passer du phénomène littéraire à la petite dinde incapable de gérer l'attention dont elle est le centre.
C'est cruel, hein ?
C'est très cruel. Ce dialogue, en fait, qui, dans tout le roman, qui fait des allers-retours entre le présent et le passé, on s'y perd jamais. J'avais un peu peur de ça, et en fait, pas du tout. L'écriture d'Anne-Sophie Bram, elle est très fluide, elle est très agréable. Elle parle à cette jeune fille, elle la tutoie comme on parle à une copine, et du coup, ça nous touche vraiment. De cet échange entre la grande Sophie, celle qui est aujourd'hui prof de lettres et qui a quitté Paris et a un peu cessé de se bercer d'illusions, et la petite Sophie, de 16 ans, des rêves plein la tête, on retient surtout une grande tendresse, mais aussi parfois de la tristesse. Elle m'a émue, moi, cette femme qui porte un regard assez dur sur elle, sur ses actions passées, sur sa carrière, sur son physique. Trop moche, trop quelconque, pas assez talentueuse, pas assez sympa, trop égoïste, pas assez sûre d'elle. Même si l'espoir et l'apaisement et une sorte d'apaisement pointent leur nez à la fin du roman. Ce roman, c'est aussi une très belle histoire sur l'amitié.
Ouais.
Une amitié entre deux jeunes filles qui évoluent, qui a des ratés, il y a des incompréhensions, des drames qui jalonnent la vie de Sophie et Anouk. Et pourtant, malgré toutes ces circonvolutions, ces engueulades, elles restent importantes l'une pour l'autre comme des marqueurs d'une adolescence qu'on ne voudrait pas voir finir. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, qui m'a émue et qui, je pense, parlera à toutes les générations. D'abord à une, parce qu'il y a un petit côté retour vers le passé qui est quand même super et qu'on se replonge dans nos années d'adolescence et dans cette fameuse année de terminale. Et puis aussi parce qu'il parle quand même de la tentation de la célébrité et des déconvenues qui peuvent s'en suivre. Et que ça, je pense que c'est une thématique on ne peut plus d'actualité.
Ce qu'on devient d'Anne-Sophie Bram est publié chez Flammarion, un très, très beau livre, effectivement très touchant sur ces jeunes années et puis cette amitié féminine. Autre livre, on change mais alors là complètement de décor, d'abord c'est un héros masculin, c'est avec vous Laetitia, vous avez lu Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, c'est publié chez Philippe Rey, c'est sorti déjà il y a quelques mois parce que c'était un des livres de la rentrée littéraire de septembre, hein, pas de janvier, de septembre avec... Beaucoup de prix. Là, on est dans le au Caire, dans les années 80, et on suit l'histoire de Tarek, qui est un jeune médecin à la vie bien rangée.
Exactement, l'histoire raconte la vie de Tarek, dont on va parler un petit peu. Je voudrais juste revenir sur le titre, puisque vous avez très justement pointé le fait que les deux romans commencent par « ce que ». Ce qu'ils ont en commun aussi, ce que le livre de Chacour a en commun avec le livre d'Anne-Sophie Braham, c'est, dont a parlé Victoria tout à l'heure, c'est aussi peut-être un goût en ce moment pour les relectures de vie. Des relectures de vie qui du coup passent par des allées et venues entre passé et présent, et pour autant le lecteur n'est absolument pas perdu. Effectivement, l'histoire de Tarek, hein, ce jeune homme rangé, en tout cas sur des rails. Il vit au Caire, dans une famille bourgeoise. Son père est médecin. Assez vite, au début du roman, son père décède, voilà, de sa belle mort. Et Tarek va prendre la suite du cabinet. Donc tout est droit. Il va se marier avec une femme qu'il aime et qui l'aime. Il a une sœur, une petite sœur, qui est sa confidente. Il a une mère qui est passionnée de France, qui cite De Gaulle. Qui est une mère, j'allais dire à l'égyptienne, je sais pas, je veux pas me lancer dans des stéréotypes, mais en tout cas qui est une mère très très présente, très couveuse de sa famille, de son fils évidemment, jusqu'à oublier un petit peu la sœur. Et l'histoire de Tarek, elle va être percutée dès l'instant où finalement il va sortir un tout petit peu des rails en allant construire un dispensaire dans des quartiers pauvres du Caire. Et là, il va faire la rencontre de Ali. Ali qui a une mère très malade, c'est comme ça qu'il fera la rencontre avec cette petite famille, cette petite cellule familiale en tout cas. Et la rencontre avec Ali, en fait, va bouleverser sa vie. Voilà, c'est finalement un sujet assez banal. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est l'écriture, en fait. Une écriture qui est magnifique. Enfin, c'est peu de dire qu'elle est magnifique. Elle est ciselée, elle est très fine, très précise, et puis surtout un mode d'écriture assez étonnant, c'est-à-dire que le narrateur s'adresse à quelqu'un dont on ne sait absolument pas qui c'est, en fait. Pendant les deux tiers du livre, il s'adresse à quelqu'un. À ce moment-là, il y a comme un point de bascule où on sait à qui il s'adresse, ça je ne vous le dirai pas. mais ça donne une espèce de tension dans le livre, on a envie de savoir à qui est-ce qu'il parle. Beaucoup de passés simples aussi dans cet ouvrage moderne pourtant, donc c'est pas banal. Et voilà, on ne se lasse pas de lire. J'ai envie de vous lire un tout petit extrait, parce que ce qui est très beau aussi dans le livre, en fait, c'est l'intrication de une sorte de tricotage entre l'histoire de Tarek, bien sûr, et puis l'histoire de l'Égypte, en fait, l'Égypte de Nasser. On est dans les années 80. Et c'est un pays qui se cherche, en fait, entre liberté, recherche identitaire aussi, avec une ville qui est extrêmement cosmopolite, avec des communautés très, très différentes. C'est magnifique. Je vous lis un tout petit passage, un
Allez-y.
Peu
ouais.
Alors, c'est le passage qui se situe au moment où Tarek va rencontrer sa future femme. À ce moment-là, c'est sa future femme. Deux jours. Il avait fallu autant de temps aux soldats ennemis pour conquérir le Sinaï qu'à Mira pour envahir tes pensées. Cela s'était fait par surprise, sans grande opposition, deux jours. Avancer sous les radars, neutraliser toute forme de résistance, procéder à l'assaut. À l'image de Leïla, envoûtant Caïs dans ce conte qu'on te lisait enfant, elle avait à ce point pris possession de ton esprit qu'elle te semblait plus présente encore lorsque vous n'étiez pas ensemble. Les dizaines de milliers de militaires égyptiens n'étaient pas rentrés du combat pour raconter la déroute de votre armée et l'on vivait les dernières heures d'une illusion de victoire. L'ivresse absurde de la rue valait bien la tienne. Voilà, une belle écriture. Et puis vous avez vu ce tutoiement à une personne dont on ne sait pas encore de qui il s'agit. C'est un très très beau livre à savourer. En fait, moi je l'ai lu il y a quelques semaines, et j'ai déjà envie de le relire, en fait, pour y revenir, en sachant évidemment qui est cet interlocuteur à qui il s'adresse, pour savourer un peu plus la personnalité de ce personnage, Tarek, dont on se demande, et j'aimerais bien lui poser la question, s'il a un lien avec, évidemment, avec l'auteur Éric Chacour. Alors, lui, c'est son premier roman, je ne sais pas si on l'a dit.
Non.
Et il n'est pas du tout versé dans la littérature, puisqu'il est diplômé en économie appliquée, et il travaille dans le secteur financier. Il est québécois, c'est la deuxième fois que le prix des libraires est donné à un québécois, Le prix des libraires, j'en dis juste un mot, c'est quand même une récompense qui est très, très reconnue. Il existe depuis 1955 et en fait, il est composé d'un jury de libraires qui va sélectionner 5 titres aux deux moments littéraires que sont la rentrée de septembre et puis le milieu de l'hiver. Et parmi ces 5 titres, toute la profession va voter, donc à peu près 2000 personnes, 2000 libraires. Donc il est vraiment considéré comme un des prix les plus démocratiques. Et je pense que c'est la plus jolie des médailles accrochées au revers d'Éric Chacour, parce que par ailleurs, vous l'avez dit, il a eu un florilège de récompenses littéraires. C'est vraiment un livre qu'on invite à lire parce que c'est un itinéraire qui peut sembler lisse et qui est en fait infiniment complexe et qui va interroger non seulement l'histoire d'une personne, mais l'histoire de son pays, celle de sa famille. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'une vie en fait, qu'est-ce qui fait qu'une vie est réussie ou pas, voilà, à lire, vraiment.
Ça s'appelle « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour et c'est publié chez Philippe Ray.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Merci pour votre fidélité à Effervescence. Dernière partie de cette émission, je vous propose de rencontrer maintenant l'écrivain et essayiste Alexandre Lacroix. Il est le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. C'est un défenseur de la philo pour tous. Il manie une écriture accessible et généreuse et s'empare de concepts généralement ignorés de la tradition philosophique. Après un livre sur le paysage et un autre sur l'érotisme, voilà qu'il nous offre une réflexion sur la danse. Pour cela, en 2019, il a passé de longs moments à l'Opéra de Paris, à observer les danseurs, à échanger avec eux. Je l'ai rencontré en début de semaine dans un minuscule studio parisien où il a ses habitudes de travail. On l'écoute nous raconter l'opéra.
En fait, j'ai eu la chance effectivement de suivre pendant un peu plus d'un an deux danseurs étoiles, d'entrer à l'Opéra Garnier, de suivre en fait leur quotidien de travail, c'est-à-dire tout ce qui est hors de la scène ou derrière la scène, les cours, il y a des cours quotidiens pour les danseurs, même les danseurs étoiles prennent des cours chaque jour et répètent les positions de base, les figures de base de la danse classique. Et j'ai suivi également les répétitions. Alors j'ai suivi en particulier les répétitions d'un spectacle d'un chorégraphe contemporain suédois de très grande renommée internationale qui s'appelle Matsek, ça c'était une chance. Et ce que je voulais faire, c'est écrire un livre sur la danse, un livre de philosophie, de réflexion, mais un livre qui soit vraiment nourri par l'observation du travail sur le corps, du travail du geste, du travail sur le rythme, du travail aussi de synchronisation ou de relation entre les danseurs. Enfin, toutes ces choses qui sont quand même assez inaccessibles pour... D'abord, l'opéra n'est pas un lieu très accessible en soi, ça a été très long d'avoir les autorisations, mais c'est aussi, il nous est aussi difficile de nous imaginer ce monde-là, je pense, quand on est un néophyte, un débutant, ce qui est mon cas. On a du mal à... On sent bien qu'il faut une discipline de fer, mais à part ça, comment ça se passe vraiment de répéter un spectacle? Comment les gestes s'améliorent ou les mouvements s'améliorent au fil des répétitions, par exemple? Ça, c'est un peu mystérieux, c'est ce processus que j'avais envie de voir.
On vous sent fasciné par les danseurs, par leur plastique, par leur grâce, mais aussi par leur force de travail et leur ténacité.
Oui, alors j'ai essayé de faire des passerelles entre mon univers et le leur, ou plutôt de comprendre... Moi qui ne suis pas danseur, leur état d'esprit à partir de ce que je connais. Ce que je sais de l'écriture, donc moi j'ai publié une vingtaine de romans et d'essais, j'écris depuis toujours. Ce que je sais de la pratique de l'écriture, qui est dans mon cas une pratique quotidienne, c'est que, comme beaucoup d'art, l'écriture demande une alliance un peu étrange entre discipline et liberté. Si vous avez la liberté, c'est bien, ça va vous donner une force d'expression, ça va vous donner une forme d'originalité, peut-être un style personnel, ça va vous permettre de vous libérer des autorités et des classiques. Mais si vous n'avez que la liberté, vous n'arrivez à rien. Il faut adjoindre à cette capacité à être libre, dans son expression, une discipline de fer dans l'écriture. Mais alors, ce qui est passionnant dans le cas de la danse, une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est que... Donc c'est un double bind en fait. Normalement il y a des gens libres, il y a des gens disciplinés. Donc là faut être les deux. Mais dans leur cas, c'est encore plus vrai ou encore plus exacerbé. C'est-à-dire que un danseur s'il arrête pendant 2 mois, j'ai un écrivain qui s'il arrête pendant 2 mois, à la rigueur il va se ressourcer et quand il reviendra à l'écriture, il sera peut-être un peu meilleur. Un danseur il n'est plus rien au bout de 2 mois. Ses muscles, ses tendons, ses articulations, ce sont des faits. Il ne peut pas. Un danseur à haut niveau ne peut pas se permettre de ne pas entraîner son corps pendant 2 mois. Donc c'est une discipline vraiment quotidienne. C'est une discipline de fer. Et quand on regarde les danseurs professionnels, on s'aperçoit qu'ils arrivent tous à exécuter les figures, c'est-à-dire que la technique leur résiste assez peu. Hein, contrairement à une légende, les gens disent « Ah, il y a des blessures. » Oui, il y en a, mais enfin, quand même, ce qui est impressionnant, c'est leur aisance technique est prodigieuse. Donc, en fait, ça fonctionne très bien du point de vue du corps et ils savent très bien faire ce que le chorégraphe demande. Par contre, le niveau d'expressivité crée de vraies différences entre les danseurs, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas tous la même intensité d'émotion. Peut-être que c'est plus difficile pour les jeunes parce qu'ils ont moins de vécu aussi quand vous interprétez des rôles de femmes délaissées, d'amants, de princes. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est peut-être plus dur. Mais disons que cette capacité à transmettre l'émotion, ça c'est le pôle de la liberté qui est convoqué. C'est la liberté humaine qui doit être convoquée et embarquée dans le mouvement.
Est-ce que vous faites une différence entre la danse classique et la danse contemporaine ? Parce que le ballet que vous avez suivi, Another Place, c'est un ballet contemporain.
Alors, il y a des différences importantes entre la danse classique et la danse contemporaine. Il faut quand même dire qu'on est aujourd'hui dans une tendance au décloisonnement. C'est-à-dire que la troupe de l'Opéra National danse du classique, du néoclassique en fait, on dit, et du contemporain en alternance. Parfois, certains danseurs, dans la même semaine, passent d'une répétition contemporaine et parfois dans la même journée, à un spectacle classique, ce qui mobilise le corps de façon différente. Moi, c'est vrai que je me suis intéressé à un chorégraphe qui a une écriture chorégraphique, donc Matsek, extrêmement originale. Ce qui m'a interpellé dans sa manière de travailler, c'est qu'il utilise son observation directe de gestes du quotidien, des gestes comme, je sais pas, on rajuste ses vêtements, des gestes très prosaïques, hein, parfois se gratter le dos, sauter, faire youpi, lever les bras. Enfin, il utilise des gestes qu'il a comme prélevés dans la vie de tout un chacun, mais il opère sur ces gestes, sur ces mouvements, une stylisation. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il nous amène, il pousse des mouvements que nous connaissons tous à un niveau d'abstraction qui les rend artistiques. Donc ce qui est passionnant, enfin l'une des questions que je me pose dans cet essai, qui est une question philosophique, c'est de comprendre ce qui distingue un geste normal, on va dire, un geste qui n'est pas dansé, d'un geste dansé.
Comment la philosophie peut-elle nous aider à comprendre la danse ?
La philosophie n'est pas très bavarde sur la danse. Il y a peu de textes de philosophes qui parlent directement de la danse. Et je dirais que précisément l'enjeu pour moi était d'essayer de combler ce manque. Moi je m'intéresse beaucoup à des objets dans mon travail qui n'ont pas occupé les philosophes mais qui occupent beaucoup les humains. Par exemple la danse, c'est un exemple parfait, c'est un invariant culturel, c'est un universel humain, c'est-à-dire qu'on ne connaît aucune société humaine sans danse. On a des vestiges de danse très ancien, sujet à interprétation, mais il est certain qu'on dansait au néolithique. On a 30 000 ans avant Jésus-Christ des premiers instruments de musique, et donc il est légitime de penser qu'au son de ces instruments, qui pouvaient être des racloirs en os de renne par exemple, on dansait. Enfin, c'est légitime parce que toute la littérature ethnographique confirme que dans toutes les cultures il y a des danses, et quand je dis que dans toutes les cultures il y a des danses, c'est pas des danses désarticulées, simples, c'est des cultures complexes. Si vous voyez dans des documents vidéo ethnographiques des danses traditionnelles, vous comprenez très vite que les pas sont codifiés, donc il y a des maîtres de danse, donc il y a une transmission, donc ça, les cultures humaines ont poussé très très loin la danse. Alors on rencontre tous la danse, je veux dire, même si on va pas à l'opéra, on rencontre la danse dans les fêtes, dans les soirées, dans les boîtes de nuit. Donc les humains dansent, et pourtant les philosophes s'y sont peu intéressés, peut-être parce qu'ils s'intéressent ou ils vont puiser leur sujet dans les bibliothèques. Alors ça, pour moi, c'est idéal, c'est-à-dire c'est un terrain de friche. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est un peu un bricolage, c'est-à-dire que j'ai puisé dans des sources dans les neurosciences, j'ai puisé chez Bergson. C'est-à-dire Bergson ne parle jamais de danse directement, mais par contre, il a une pensée où il structure sa pensée autour d'une opposition entre l'instinct et l'intelligence qui est tout à fait éclairante pour parler du mouvement et pour parler de la danse. Mais il y avait beaucoup de choses à faire moi-même.
Et quelle leçon de philosophie nous donne la danse ?
La danse, en fait, nous amène dans un royaume auquel la philosophie n'a pas accès. C'est-à-dire qu'elle est une sorte d'école de la sensation pure. Et je dirais même que le mouvement de la philosophie et le mouvement de la danse sont opposés. La philosophie consiste à partir de l'observation, du concret, du singulier, du particulier, pour essayer de remonter vers le concept, c'est-à-dire pour remonter vers l'abstraction et remonter vers la généralité. Et dans ce mouvement, on va dire ascendant, on pourrait dire ascendant, du terrain vers le concept ou du particulier vers le concept, on perd un peu le grain du réel, on perd un peu la sensation. On perd l'instant présent. Le concept est censé avoir une valeur aussi, alors peut-être pas éternelle, mais un peu atemporelle. En fait, le danseur, lui, sa quête est complètement inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, on a une musique qui contient un certain degré d'universalité, des intentions du chorégraphe, des pas de danse classiques qui sont codifiés et qui ont tous un certain degré d'universalité. Mais on part de ça, de cette généralité, et on cherche à pousser très loin dans le particulier, dans la sensation, dans l'instant présent. Le danseur va chercher à vraiment à se tenir sur la fine crête du présent, à être entièrement là dans son geste. Et je dirais que ce sont comme deux quêtes symétriques, celle de la philosophie et celle de la danse. Du coup, je dirais que la danse peut compléter la philosophie. Elle lui apporte ce qu'elle ignore.
Quelques notes de Liszt, la musique d'Another Place, une pièce chorégraphique créée par Mats Eck et dont nous a parlé Alexandre Lacroix. Et je vous redonne le livre d'Alexandre Lacroix. C'est vraiment un essai passionnant, c'est publié chez Alary Éditions. Ça s'appelle « La danse, philosophie du corps en mouvement ».
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
C'est ainsi que se termine cette émission où l'on a parlé sport et danse. Merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont rendu possible. D'abord, avant tout, à mes chroniqueuses Laetitia Forgeau-Darc et Victoria Jacob. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation. Je vous glisse dans vos oreilles une citation pour le week-end. On la trouve à l'ouverture du nouveau livre de Clara Isée, le premier livre de Clara Isée, la chanteuse. C'est un livre qui s'appelle Vivante, c'est un recueil de poésie. Elle ouvre son livre avec cette citation du poète Ingeborg Bachmann : « Toute personne qui tombe a des ailes ». Bon week-end à tous.